Oh boy! Parlais avec Audrey d'immobilier tantôt, puis là, elle est en train de faire des recherches sur ça.
Ah ben là, on va acheter une maison.
Mais quelle belle maison tu m'as montré. Une belle maison sur le bord de l'eau, il n'y a rien de mieux.
C'était écœurant.
Surtout,
hein?
Ça ressemble à être un chalet qui a été rénové. Là.
Oui, mais c'est ça qui est particulier, ouais. Un genre de chalet locatif. Mais écoute, il y a bien du beau stock quand on s'éloigne. Saint-Alban, Saint-Casimir, Deschambault.
Ouais, ouais. Puis tu sais, je l'ai toujours dit, le bonheur est en campagne.
C'est vrai, ça.
Hey, quel plaisir de le recevoir à l'émission. C'est un... on l'appelle l'enquêteur du paranormal. C'est un auteur à succès. Il a écrit plein de livres et c'est aussi quelqu'un que j'aime bien. Christian Page, qui est au bout du fil. Salut, Christian.
Salut, patronne.
Oh!
Oui, parce que c'est de même, je l'appelais. Hola, patronne! Comment ça va?
Ça va très bien.
Oui. Écoute, ton premier tueur de l'occulte, je pense que tu en as sorti des dizaines de milliers. On est-tu rendu à 20 000 maintenant?
Ben, on est dans ces eaux-là. Ça a été un très gros succès de librairie. Et comme tu le sais, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises ensemble, c'est un sujet qui me passionne un peu, c'est cette dérive des croyances dans l'univers du surnaturel.
Ouais.
C'est la raison pour laquelle j'avais fait une série télé, pourquoi j'ai fait également le premier livre, qui a connu un tel succès que les gens redemandaient. C'est vrai que dans les séries télé, j'en ai fait quand même plusieurs. On a fait 4 ou 5 saisons, d'abord à Canal D et ensuite sur Netflix. Alors, j'avais beaucoup, beaucoup de matériel. Pour ceux qui travaillent un peu dans le domaine de la télé, on sait bien que parfois, on a du matériel pour faire 3 heures, mais on est limité aux 45 minutes, 45 secondes de l'émission. Donc, on doit un peu départager, faire un décantage des dossiers. C'est pas toujours forcément de bon choix parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on doit mettre de côté.
Oui.
Le livre permet d'aller beaucoup plus en profondeur et c'est pourquoi aujourd'hui, à partir de mercredi prochain, les gens pourront trouver Les Tueurs de l'Occulte 2 en librairie avec plein de nouvelles histoires toutes plus incroyables les unes que les autres.
Christian, tu as commencé ta carrière très jeune, tu as déjà quelques décennies derrière la cravate, tu as ramassé des histoires, tu as une mémoire d'éléphant. Moi, ce qui me marquait à chaque fois que je travaillais avec toi, c'est de voir à quel point des fois je te posais des trucs sur lesquels je pensais que tu n'étais pas préparé, puis finalement tu es embarqué dans un des casiers de ton cerveau puis tu étais capable de me décrire avec une exactitude hallucinante les faits qui s'étaient passés à ce moment-là. Le nombre d'enquêtes que tu as faites, là, où il y a des histoires atroces qui se sont passées, parce que très souvent, tu t'es rendu sur place, là. Comment tu fais pour dormir le soir? T'as-tu de la misère? Tu repenses-tu à ça, des fois?
Oui, en fait, dans le cas des crimes occultes, parce qu'évidemment, quand on aborde le surnaturel, le paranormal, c'est plus léger sur la charge émotive. On est confronté à des événements étranges, mais pas forcément qui vont nous troubler. Dans le cas des tueurs occultes et même dans le cas du tome 2 qui sort la semaine prochaine, il y a bien sûr, ce sont des histoires qui sont tout à fait terribles, mais je reste encore dans le tome 1 qui est paru en 2021, je crois.
Ouais.
Il y avait un groupe de tueurs et on en avait parlé ensemble à l'époque. C'était ce qu'on appelait les éventreurs de Chicago. Donc un groupe de 4 tueurs qui s'étaient réunis et qui patrouillaient les rues du Grand Chicago, là, élargi. On enlevait des femmes, on les assassinait, on les mutilait, on gardait des parties de corps pour en faire des rituels sataniques. Cette histoire-là, écoute, elle me marque encore aujourd'hui. Même pour les auditeurs, là, je rentre dans le bureau, je suis avec le procureur, je m'attends vraiment pas à ça. On échange l'ensemble des crimes. Et là, il me met sous les yeux le dossier de l'accusation. Et il y a là-dedans les photographies des scènes de crime. Il faut vraiment avoir le cœur haut placé là, pour pouvoir résister à ça. Là, j'ai vu ça, j'ai été troublé. Et même encore aujourd'hui, quand je repense aux crimes occultes, c'est encore les images de ça qui me reviennent en tête, les images des éventreurs de Chicago. Et j'avais donné une conférence à Québec après la sortie du premier livre, où bien sûr tu auras compris que dans le livre, je me suis un peu auto-censuré, donc on n'a pas mis de photos des scènes de crime, on a mis la photo des assassins, la camionnette qu'ils utilisaient pour enlever les femmes, mais on n'a pas mis de photo de la scène de crime. Et quand j'ai donné ma conférence à Québec, là j'avais les photos des scènes de crime, et quand je les ai montrées, les gens dans la salle, là, je te dirais facilement, là, 70% d'entre eux là, ont détourné le regard de l'image.
J'en doute pas.
Tellement c'était choquant.
Christian,
oui.
Qu'est-ce qui entre dans l'oculisme, peut-être pour les gens qui sont moins familiers là, avec tout ce qu'on jase?
Ouais. Quand on parle de crimes occultes, Moi, je le prends dans le sens très élargi, hein, parce que si on discute avec les agents du FBI, par exemple, ils diront un crime occulte, c'est un crime qui était commis sur une motivation occulte, donc une croyance. Hein, j'assassine mon voisin parce que je suis persuadé qu'il est un vampire, ou moi, j'assassine le voisin parce que je suis convaincu que le diable m'a dit de le faire. Donc, on est vraiment ici dans des dérives de croyances qui vont conduire au crime. Ça, c'est la notion, disons, pure et dure du crime occulte. Il y a une version plus élargie qui est la version du crime ritualisé. C'est-à-dire que j'assassine mon voisin parce qu'il tond sa pelouse le dimanche matin et ça me tombe ses nerfs. Et une fois que je l'ai assassiné, comme je suis un sataniste, je vais lui graver un pentagramme dans la bédaine. Donc là, on a un crime qui était, en fait, la raison du crime n'est pas occulte, mais l'action après le crime, la façon dont j'ai ritualisé le crime, j'ai voulu lui donner une petite saveur occulte. Donc moi, dans le cas des crimes que je partage dans mes ouvrages, ce sont des crimes occultes à caractère élargi, c'est-à-dire qu'on a à la fois des crimes qui sont motivés principalement par une notion occulte, et d'autres crimes qui ont été ritualisés parce que l'assassin avait cette dérive de croyance. Hein. Il se débarrassait de gens qui l'agaçaient. Ça peut être une ancienne copine, un ancien collègue de travail, un voisin. Et comme il est embrigadé dans cette croyance un peu surnaturelle, bien, il va ritualiser son crime pour y donner un sens.
C'est 13 histoires dans le prochain livre que tu vas sortir le 23 octobre prochain. Est-ce que c'est un peu romancé ou non? C'est toujours vraiment factuel.
C'est toujours très factuel. C'est un travail de pur journalisme. Donc, dans le prochain, dans le premier, j'en avais 13. Dans le deuxième, j'en ai mis 12. Et j'ai consacré un 13e chapitre parce que je me suis rendu compte que souvent, et même avec Marceau, je faisais ça, j'évoquais une période dans les années 70 et 80 qu'on a appelée la grande peur satanique. Et j'avais l'impression que tout le monde savait de quoi on parlait. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignoraient que dans les années 80, principalement dans la première moitié des années 80, il s'est développé en Amérique du Nord une peur des satanistes. Ils étaient partout. On croyait qu'ils avaient infiltré les écoles, les centres de la petite enfance, le gouvernement. Et c'est triste parce que cette peur satanique, elle est cyclique. Hein, je ne veux pas entrer dans des concepts, là, je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, mais on voit que la peur satanique, il suffit de brandir un peu l'épouvantail, puis elle est vite de retour. Hein. Dans les années 80, c'est une série d'événements, et particulièrement l'émancipation des femmes dans les années 70 qui ont conduit à cette peur satanique. Hein. Les femmes qui généralement étaient à la maison, prenaient soin des enfants, les voilà qu'elles sortent, elles vont travailler, elles s'émancipent. C'est la liberté sexuelle. Alors, on comprend que dans un milieu ultra-religieux, on brandit du haut des chairs dans les églises. Le diable est présent. Tout ça, c'est les actions du diable. Et peu à peu, cette peur satanique va s'imposer. Les satanistes sont partout. Et on le revoit aujourd'hui, là, hein, certains groupes politiques. Quand on nous sort des trucs genre « on contrôle les climats », il y a des méchants politiciens qui se réunissent dans des pizzas et dévorent des bébés ou les agressent sexuellement, on voit que cet épouvantail de la peur satanique, elle est quand même pas si loin que ça. Hein? On parle des années 80, mais elle est facilement, on peut facilement l'actualiser aujourd'hui. Et j'ai consacré donc un chapitre entier dans le prochain ouvrage où j'explique cette dérive. Comment la peur satanique est apparue à la fin des années 70, début des années 80, et comment elle est toujours omniprésente. Hein? Il suffit que des gens mal intentionnés nous la ressortent, nous la secouent pour que rapidement on tombe dans le délire. Et ce délire-là, ben malheureusement, lorsqu'il dérape au maximum, il peut entraîner des actions criminelles, voire des meurtres.
Qu'est-ce qui relie les tueurs de l'occulte? Est-ce que c'est tous des hommes pour la plupart? Est-ce que c'est tous des gars qui ont eu des parents qui ont abusé d'eux?
Ah, là, tu poses, Yannick, une question qui est fascinante. Hein? Dans le cas des tueurs en série, il suffit de suivre un peu l'actualité, regarder les documentaires qui se font sur le sujet. Les tueurs en série sont majoritairement des hommes. Les hommes vont passer leur colère, disons ça comme ça, entre guillemets, ils vont passer leur colère sur les autres. Hein, il y a vite un sentiment qui se développe, c'est la faute des autres, c'est le monde à l'extérieur et je dois le détruire. Dans le cas des femmes, il y a moins de tueuses en série. Il y en a quand même, mais beaucoup moins. Parce que les femmes auront davantage une façon de tourner cette violence-là vers elles-mêmes. Donc, elles vont sombrer minimalement dans la prostitution, elles vont devenir toxicomanes, et ultimement, c'est le suicide. Donc, les femmes tournent cette violence-là vers elles, alors que les hommes la tournent vers l'extérieur. Donc, essentiellement, à la base, si on parle de tueurs en série, les hommes forment la grosse majorité des tueurs en série. Dans le cas des tueurs occultes, là, on le sait dans tous les domaines. On a bien sûr ce premier profil du tueur en série, donc généralement un homme âgé entre 20 et 50 ans qui décide de commettre ses crimes. Mais ce qui est la valeur ajoutée, si tu me permets cette mauvaise expression, c'est bien sûr qu'il a été embrigadé dans des croyances étranges. Très souvent, hein, ça commence à l'adolescence. Il y a la musique du diable, on écoute du AC/DC. Et là, éventuellement, on va s'intéresser à l'occultisme. Puis bon, bien sûr, les gens qui écoutent AC/DC et qui lisent des ouvrages sur l'occulte ne deviennent pas tous des tueurs en série. Mais on vient d'ouvrir une porte. Et là, évidemment, on glisse dans cet univers-là qui est absolument sombre. Et là, on se met à croire à toutes sortes de notions surnaturelles, les pouvoirs de l'esprit, les fantômes, le diable, les vampires. Et là, éventuellement, ça va. Évidemment, il y a toujours... Parce qu'il faut comprendre que sur le plan de le plan légal de la chose, c'est vrai que beaucoup de tueurs en série souffrent de problèmes mentaux. Mais sur le plan légal, il y a une différence entre souffrir de problèmes mentaux et être inapte à subir un procès. On le comprend bien, là. Le tueur, j'ai dans mon livre qui sort la semaine prochaine, un tueur, par exemple, qui, lui, était convaincu que le monde était divisé en deux groupes. Il y avait les bons vampires et les mauvais vampires. Et éventuellement, il était convaincu que sa grand-mère était la chef des vampires. Des mauvais vampires, on a bien compris. Donc, il s'est armé d'un pistolet, il a peint des balles en or, s'est rendu chez la grand-mère, il l'a abattu. Ensuite, il a mis le feu à la maison. Bon, j'ai laissé les gens découvrir l'histoire. Mais c'est sûr que ce type, lorsqu'il est arrivé devant les tribunaux, il avait un long passé de schizophrénie, puis de problèmes mentaux, puis il croyait à toutes sortes de dérives. Et les parents ont fermé les yeux à plusieurs reprises dans l'adolescence. Des professeurs, des gens autour de lui ont dit aux parents, « Vous savez, votre fils a de drôles de comportements et de drôles de croyances. » Et chaque fois, les parents étaient, « Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imagination, on verra ça plus tard. » Et éventuellement, on n'a jamais vu à plus tard, et ça a dérivé jusqu'au meurtre. Sur le plan légal, cet individu-là souffrait-il de problèmes mentaux? Sans aucun doute. Était-il responsable? Oui. Il était responsable dans la mesure où, quand il a commis le crime, on voit qu'il était conscient du bien et du mal. Et c'est ce qui intéresse les autorités. Lorsque l'on parle d'un procès en justice, c'est cette notion du bien et du mal qui joue en faveur ou en défaveur de l'accusé. Dans le cas présent, notre assassin, certain James Riva, a mis le feu à la maison. Il a essayé de faire disparaître des preuves. Il avait monté toute une histoire un peu abracadabrante pour justifier un détour pour se rendre à la maison de la grand-mère. Ensuite de ça, il a dissimulé l'arme du crime. Hein? Donc, tous ces éléments-là montrent qu'il était conscient que l'action qu'il commettait était mal. Maintenant, est-ce qu'il avait des problèmes mentaux? Bien sûr qu'il avait des problèmes mentaux de croire que le monde est aux mains des vampires et tout le reste. Là, on était vraiment dans une dérive. Mais en même temps, on voit que des gens autour de lui auraient pu réagir plus tôt, ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est bien souvent ce qu'on retrouve aussi dans le cas des tueurs de l'occulte. Hein, ces gens-là ne deviennent pas des meurtriers sanguinaires du jour au lendemain. Ils ont des dérives très souvent qui apparaissent dans l'adolescence. Et les parents ou les gens autour d'eux ferment les yeux en disant « c'est des troubles d'adolescence hein. ». Je pense par exemple à un jeune Britannique qui a tué la voisine, il a ouvert le poitrail, vous allez retrouver cette histoire-là dans mon prochain livre, il lui ouvre la poitrail, lui arrache le cœur pour le manger et boire son sang.
Ah oui, alors?
Et lorsqu'il est arrêté, ben évidemment, on découvre que depuis des années, il entretenait toutes sortes de fantasmes sur l'immortalité, sur les vampires et tout le reste. Et les parents le savaient, mais pour eux, c'était « Ah oui, mais tous les adolescents s'intéressent à l'occulte, tous les adolescents s'intéressent à de la musique parfois un peu marginale, heavy metal, black metal, et qui souvent, dans les thématiques qu'on retrouve dans ces musiques-là, c'est souvent le diable, une espèce de combat, une manifestation contre la droiture. » Et les disaient, ben, c'est normal, c'est un adolescent.
Où est-ce qu'on fait la distinction? Parce que, je veux dire, on a tout un intérêt un peu, une curiosité malsaine que j'aime appeler, là, envers ces histoires-là, peut-être un peu sombres, je vais le dire comme ça, macabres.
Cruelles.
Oui, cruelles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu t'inquiètes sur ton état mental ou c'est normal, mettons, cette curiosité-là?
Ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, notre curiosité, elle est saine. Et pourquoi elle est saine, cette curiosité, comme tous les gens qui regardent des séries à la télévision sur les tueurs, puis Jeffrey Dahmer et tout le reste, des émissions qui connaissent énormément de succès? Parce que quand on voit ça, ou on lit des trucs là-dessus, on a l'impression d'être projeté dans un autre monde, un monde qui ne nous appartient pas. Hein, par exemple, si on ouvre le journal, et on lit une histoire assez horrible. Bon, un homme a abattu, ou une femme, peu importe, a abattu son conjoint parce qu'il l'a surpris avec un autre partenaire. C'est une histoire qu'on peut comprendre. On connaît tous, on a tous vécu des moments dans notre vie où on s'est senti trompé, humilié. Bon, ce sont des sentiments qui nous sont familiers. Ça ne veut pas dire que placé dans une situation identique, on aurait réagi avec la même violence. Mais on est capable de comprendre, d'avoir une certaine empathie ou de sympathie pour le sentiment qui est derrière le crime. Mais quand on lit une histoire, comme celle de ce gamin qui assassine la grand-mère pour lui arracher le cœur et boire le sang, là, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour nous, là, on a l'impression de lire un récit qui vient d'une autre planète. C'est complètement étranger à nos sentiments que tout un chacun va vivre dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on est fasciné. C'est un récit qui ne cadre pas avec notre propre réalité. Là où on devrait s'inquiéter, c'est quand nos enfants lisent des histoires comme celle-là et trouvent ça cool.
Oh.
Là, j'avais un adolescent qui dit, oh, un voisin a tué une voisine, il l'a dépecé en morceaux, il l'a mangé, c'est pas mal cool. Là, quand ça commence à être cool, là, faut commencer à se poser des questions.
Je serais effrayé comme mère.
Mais tant aussi longtemps qu'on reste un peu, comme quand on regarde ces crimes-là, et que notre sentiment par rapport à ça nous dit, c'est épouvantable. Ben, même si c'est une petite voix derrière qui nous dit « c'est épouvantable », rassurez-vous, vous êtes sain d'esprit. Il faut que ça demeure comme ça.
Comment tu trouves tes histoires, Christian, si c'est pas indiscret? On dirait que je me questionne beaucoup sur ton processus pour réussir à trouver toutes ces histoires-là un peu plus folles les unes que les autres, là.
Ben, comme le dit Yannick, ça va faire bientôt 50 ans que je m'intéresse au paranormal.
Tu as commencé très, très jeune, hein, Christian?
Oui. Écoute, j'étais en couche. Là, ça fait presque 50 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. Et évidemment, dans la littérature, on entend, dans des ouvrages spécialisés, on entend des histoires de ces dérives-là. Et c'est un peu la manière dont moi je m'inspire de ça. Il y a aussi l'actualité, hein. Parfois, c'est des articles qui vont faire une manchette en 8e page, un tout petit encadré en disant, bon, un voisin a tué sa voisine parce qu'il croyait que c'est un vampire. Bon, ça nous, hein, on lit ça, par exemple, dans le Journal de Québec, c'est un petit encadré. Bon, on lit ça, ça nous fascine, mais ça se résume à 8 lignes. Mais pour moi, les 8 lignes vont devenir une investigation. Quand moi je vois ça, là, je me dis, oh, ça se passe où? En Allemagne. OK, parfait. Je vais essayer de retrouver les témoins, essayer de retrouver les enquêteurs, les autorités qui ont pris part à l'investigation. Je veux savoir quelle est l'histoire derrière cette petite manchette anodine en 8e page du Journal de Québec, par exemple.
Christian, je veux juste revenir sur le fait qu'il y a des gens qui aiment les livres comme le livre que tu nous présentes aujourd'hui, Tueur de l'occulte, qui va être disponible la semaine prochaine, le Tueur de l'occulte 2. J'avais déjà entendu des psychologues dire que les gens qui étaient anxieux pouvaient adorer ce type d'histoire-là, que ce soit des livres ou encore des films, parce que ça les aide à se préparer si jamais il y a quelque chose qui pourrait se passer. Donc, ils vont voir le héros de l'aventure évoluer tout au long du film, exemple, puis de quelle façon lui va se sortir de telle ou telle situation dans un environnement qui est, selon eux, protégé. Puis ça a l'air que ça les aiderait, les gens anxieux. Ce serait pour ça que les gens anxieux aiment l'horreur, en fait.
Ben, je confirme.
Tu confirmes?
Mais je me sens plus saine aussi quand je lis ces affaires-là. Je me dis que je ne suis pas cinglée.
OK.
Mais tu as tout à fait raison, Yannick. Hein? Ça nous permet un peu de relâcher cette pression du monde anxiogène dans lequel on se trouve. Hein, et sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Hein. Les gens, tu sais, quand on y pense bien, là, bon, à part toi, par exemple, ou tes collègues, hein, vous êtes dans les médias, vous avez une parole, vous avez un ascendant sur le public qui nous entoure. Hein. Vous pouvez donner votre opinion sur les ondes chaque jour. Mais le commun des mortels, on est un peu limité dans notre maison, chez nous, on regarde ce qui se passe autour de nous, des situations souvent très anxiogènes. On a vu d'ailleurs le nombre de théories du complot naître durant la période de la pandémie du COVID. Justement, on voyait cet aspect-là très anxiogène, un monde sur lequel on n'a pas de contrôle, qui nous place dans des situations très anxieuses. Et le fait de regarder des livres, de lire des livres ou de regarder des films où on voit justement des gens placés dans des situations excessivement difficiles, réussir à s'en sortir, ben c'est un peu pour nous une projection. On s'est dit, regarde, il y a toujours une solution quelque part, c'est possible. Et le fait que le héros survive à la fin, ben ça nous dit, il y a... Quelque part, il peut y avoir une fin heureuse. Donc, c'est pas si pire que ça. Hein? C'est toujours la question de si je me compare, ben là, je constate que c'est pas si dramatique que ça. Et ces films-là ou ces livres-là nous permettent de nous projeter un peu dans des scénarios qui sont tout à fait apocalyptiques et de s'en sortir finalement sans y laisser notre peau. Et ça, quelque part, ça a un effet apaisant sur l'observateur. Mais faut quand même pas se dire qu'en allant assassiner notre voisin, ça va nous libérer de nos anxiétés là. Hein, nos anxiétés malheureusement, dont on ne peut manifester que toutes les 4 ans en faisant un petit crochet sur un bulletin de vote. Hein. C'est un peu souvent la seule parole que l'on a pour manifester contre le monde qui nous entoure, c'est de dire je vais aller voter. C'est bien peu. Quand on pense à toutes les pressions qui arrivent de partout et qui nous étouffent.
C'est une question d'auditeur que j'ai eue sur Messenger tantôt quand la personne a su que tu étais de passage à l'émission. Quelle preuve ou quel artefact que tu as déjà eu dans ta carrière, dans tes mains, que tu t'es dit « jamais j'aurais pensé un jour que moi, Christian Page, pourrais avoir ça dans mes mains ». Quelque chose d'exceptionnel.
Moi, il y a deux objets qui m'ont beaucoup profondément marqué. Le premier, c'est de voir le linceul de Turin. Le linceul de Turin, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une grande pièce de lin qui fait 4,40 m de long sur 1,10 m de large et sur laquelle on voit l'image dorsale et ventrale d'un homme barbu qui présente toutes les marques de la crucifixion et qui est considéré depuis maintenant 800 ans comme l'authentique linceul du Christ. Je ne prends pas position sur la du côté religieux. Hein, je m'engage pas là-dedans. Mais cet objet-là, qui est considéré comme une relique. Quand on le voit, c'est les gens, si on l'a jamais vu, on pourrait être tenté de dire, c'est une guenille avec une image dessus, peut-être peinte ou rossie sur le dessus du tissu, peu importe. Quand on le voit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je ne suis pas prêt à dire que c'est l'authentique linceul du Christ, mais c'est un objet dont j'avais lu, j'avais entendu parler, on le retrouve souvent dans des ouvrages qui sont consacrés à des phénomènes inexpliqués, parce que le linceul pose plusieurs énigmes, mais quand on le voit, si tu me permets là, l'expression, tu tombes un peu sur le derrière. Donc l'avoir vu, ça n'a pas changé ma relation par rapport à la religion, tout ça. Mais c'est un artefact qui m'a vraiment troublé. Et l'artefact que j'ai eu entre mes mains, que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est il y a quelques années, on tournait un reportage, c'était dans le cadre d'une émission à Z-Télé qui s'appelait, je pense, Force Obscure, et j'ai eu pendant une quinzaine de minutes le manuscrit de Voynich entre mes mains.
Oh, OK. Donc, oui.
Le manuscrit de Voynich, encore une fois, pour les auditeurs, c'est un manuscrit qui est connu depuis depuis la fin du Moyen-Âge et qui est conservé aujourd'hui dans la collection des ouvrages rares de l'Université Beinecken, à l'Université de Yale, la collection rare, Yale qui est au Connecticut. Et ce manuscrit, Hein, il est, bon, on l'a redécouvert en 1912. Hein, c'est un antiquaire de livres du nom de Wilfried Voynich qui a redécouvert le manuscrit, qui était connu depuis, comme je l'ai mentionné, le Moyen Âge. Et ce qui est particulier de ce manuscrit, c'est qu'il est très beau. C'est un manuscrit de très haute qualité, mais il est écrit dans une langue qu'on ne connaît pas, qui n'a jamais existé et qui n'existe pas. Il présente des plantes, notamment des racines, des constellations d'étoiles qu'on ne connaît pas non plus. Donc, et tous les plus grands experts en cryptographie, hein, ceux du FBI, de la CIA, du département de la Défense, même on a fait appel récemment à l'intelligence artificielle pour décoder le manuscrit de Voynich sans y parvenir. Il est qualifié à juste titre le manuscrit le plus mystérieux du monde. Et j'avais, depuis l'adolescence, j'avais lu plein de trucs sur le manuscrit de Voynich, toutes les hypothèses qu'on pouvait proposer. Mais avoir le manuscrit entre mes mains pendant le tournage d'une émission, ça fait des petits gargouillis dans le ventre, là. Je l'avais entre mes mains, je me disais, wow, c'est le manuscrit de Voynich. Donc, je dirais que ça tient pas mal le haut du pavé.
Oui. Y a-tu des histoires, parce que, tu sais, j'essaie de me projeter dans le temps, là, en l'an 3000 ou en l'an 4000, puis y a-tu des histoires qu'on a vécues à notre époque, là, vous et moi présentement, qui vont parcourir le temps comme Jack l'Éventreur a parcouru le temps? Tu sais, je t'écoutais l'autre jour à l'émission, tu parlais de Jack l'Éventreur, puis on va-tu avoir dans les années 2000 un genre de Jack l'Éventreur qui va faire en sorte qu'en l'an 4000, on va encore parler de cette histoire-là en disant on sait pas qui était Jack l'Éventreur, tu sais?
Ouf, là, tu me poses une grande question de se projeter dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que si on peut peut-être se projeter dans un siècle, mais dans un siècle, je pense que si on va avoir oublié Jack l'Éventreur.
Ah oui?
On va peut-être l'avoir oublié, mais on va sûrement aussi se parler du tueur du Zodiac, qui est probablement l'équivalent américain de l'Éventreur.
Ouais.
Hein? Un tueur qui envoie des lettres, des messages codés et dont on n'a jamais vraiment réussi à décoder l'ensemble de ces messages. Mais c'est vrai que certains sont tellement courts, hein, 10 ou 15 symboles, si tu n'as pas plus que ça, ça devient très difficile, voire impossible à déchiffrer. Mais néanmoins, le tueur du Zodiac demeure là, dans l'univers du crime. Je pense un tueur dont on va encore parler dans un siècle. On va probablement parler aussi de Jack l'Éventreur, mais le tueur du Zodiac a de bonnes chances de passer un peu à l'histoire de la même façon. Quant à des événements d'ordre surnaturel, là, j'ai l'impression, écoute, je veux pas être de mauvais augure, là, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où la science nous apprend de nouvelles choses, je pense que de plus en plus de mystères trouvent leur solution. Je sais que c'est plate pour les amateurs de mystères, parce que les amateurs de mystères, hein, c'est des gens un peu étranges. Ils disent sur la place publique, nous voulons étudier ou enquêter sur ces mystères-là. Mais il faut sous-entendre que on veut pas que le mystère soit résolu. Mmh. Et c'est pourquoi certains de ces mystères-là, qui ont mille fois été expliqués, reviennent continuellement dans l'actualité. C'est le triangle des Bermudes. Depuis les années 70, on sait qu'il n'y a rien de mystérieux dans le triangle des Bermudes.
Ouais.
Mais on aime bien revenir avec le triangle des Bermudes et ramener des histoires qui ont été mille fois expliquées, mais on essaie de nous les présenter à nouveau avec une nouvelle mouture en nous disant « Ah, c'est pas expliqué, c'est mystérieux », alors que quand on fouille, on sait très bien que ces histoires-là ont été expliquées. Et donc, je pense que au fur et à mesure où la science progresse, beaucoup de ces mystères-là qui ont traversé le temps, et c'est peut-être une des raisons pourquoi on en a de moins en moins. On a l'impression souvent que les meilleures histoires de fantômes, les meilleures histoires d'OVNI, ben, c'était des histoires qui se sont produites soit au siècle dernier ou dans les années 50. Et on en a de moins en moins aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison aussi pourquoi on a de moins en moins de tueurs en série. Hein? C'est-à-dire que la science permet de les attraper après leur premier ou leur deuxième meurtre. Alors que dans les années 70, il fallait qu'ils commettent 30 meurtres avant qu'on réussisse à mettre le grappin dessus.
Ouais.
Je pense que dans les phénomènes mystérieux, paranormaux, c'est un peu la même chose. Au fur et à mesure où la science avance, ben, il y a de plus en plus de ces mystères qui commencent à trouver des explications. Je pense. Si on me projette dans l'avenir comme tu le proposes, je pense que le seul mystère d'ici quelques siècles qui va encore résister, en tout cas je le suppose, c'est « Y a-t-il une vie après la mort?
Ouais, »
Le plus grand défi auquel on est confronté, cette idée de la vie après la mort.
Oui, ce sont rares ceux qui reviennent de là et qui disent « Oui, il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Là. J'ai eu tout
vu. » Oui, tu as tout à fait raison. Et combien de fois on en a parlé, hein, les fameuses expériences de mort imminente.
Oui. Mm.
sont fascinantes. Elles nous placent un peu dans l'antichambre de la mort, mais ce n'est pas la mort, c'est l'antichambre de la mort. Qu'arrive-t-il après la mort? Tu l'as bien dit, personne n'en est revenu, à part peut-être le Christ, mais personne n'en est revenu pour nous dire ce qui se passe après. Et je ne vois pas, en tout cas, au moment où on se parle, il n'y a pas eu beaucoup de progression sur cette question-là. C'est-à-dire que on a mieux affiné la recherche qui se fait autour des expériences de mort imminente. Dans certains cas, on a trouvé des explications pour justifier pourquoi les gens voient une lumière, pourquoi les gens voient leur vie défiler devant leurs yeux. Donc, on a trouvé des explications de type neurologique pour expliquer ça. Mais l'ultime question, y a-t-il quelque chose après la mort? Ça, malheureusement, on n'a pas beaucoup progressé devant cette question-là.
Parce que les expériences de mort imminente, ça, c'est curieux, parce que partout dans le monde, des gens rapportent avoir vu une lumière, avoir vu des gens qu'ils connaissaient, avoir revu leur vie. Puis tu me l'avais mentionné, ça, que ça a été étudié. Et le cerveau ne s'éteint pas comme une lumière. Il y a certaines parties du cerveau qui meurent en premier, puis la dernière partie, c'est une partie hyper importante qui pourrait nous laisser permettre que la personne continue de rêver.
Voilà, donc tu reprends exactement là où j'ai laissé, c'est-à-dire que on a maintenant des explications neurologiques à certains éléments de cette expérience-là. Hein, la zone de Broca de notre cerveau, c'est la dernière partie de notre cerveau qui s'éteint. Or, c'est la partie de notre cerveau qui conserve l'information autobiographique. Donc, si elle est la dernière partie à s'éteindre, même si les médecins disent « Ah, il y avait un encéphalogramme plat », comme tu l'as bien mentionné, ça ne s'éteint pas d'un seul coup. Donc, les parties s'éteignent les unes après les autres. Donc, si on n'a plus d'activité cérébrale ou cortex frontal, par exemple, notre zone de Broca fonctionne toujours. Hein? Elle va prendre quelques instants pour s'éteindre après les autres. Et comme c'est l'information autobiographique, ça peut expliquer pourquoi des gens se disent, après avoir vécu une expérience de mort imminente, vous savez, le dernier moment que j'ai vu, là, j'ai vu ma vie repasser devant mes yeux. C'est peut-être normal, puisque la zone de Broca est une zone qui demeure très active, même après la mort, dans les minutes qui suivent la mort. Donc, ça pourrait expliquer cette notion de voir notre vie défiler devant nos yeux. Ça n'explique pas tout, mais on voit que l'avancement dans le domaine des sciences neurologiques, dans le domaine des sciences cognitives, nous permettent de mieux décortiquer l'ensemble de l'expérience de la mort imminente, sans toutefois répondre à la grande question, y a-t-il quelque chose après?
Christian, fais-moi une promesse, lorsque tu seras de passage à Québec, tu vas venir nous voir en studio. Je pense qu'Audrey a bien hâte de te rencontrer.
Je suis perturbée.
La promesse que je veux, c'est que je veux que tu amènes ta mystérieuse boîte à G-Book, parce qu'on va, on va expliquer ce qu'est la boîte à G-Book à Audrey, puis Audrey va ouvrir la fameuse porte.
OK, on va lui donner la surprise d'ouvrir la boîte.
Ah! Hello! C'est un rendez-vous, là!
Ouais. Ben parfait, je te promets ça, Yannick. Je vais probablement reprendre des conférences cet automne à Québec. Donc, je te laisse savoir et ça me fera un plaisir d'aller te voir en studio.
Bonne sortie de livre. Puis pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, on parlait avec Christian Page qui vient nous présenter son livre « Tueur de l'occulte 2 ». Il y a eu « Tueur de l'occulte 1 ». Ça a été un gros succès. Près de 20 000 livres vendus. C'est plus qu'un best-seller au Québec. Et là, il revient avec 13 nouvelles affaires de crimes occultes parmi les plus troublantes de l'histoire judiciaire. Donc, procurez-vous ce livre-là à partir de jeudi prochain, Christian?
Oui, à partir de mercredi prochain.
Mercredi prochain.
Ouais.
Voilà. C'est toujours un plaisir, Christian Page.
Merci. Salut.
Merci
bonne
beaucoup. Journée. Bye-bye. Pour suivre Christian Page, c'est christianpage.ca. C'est un bon raconteur. Hein?
Mon Dieu, mais j'aurais pu écouter pendant des heures. Mais là, j'ai mis une question. Ça m'a fucké là, les dernières minutes là, où on parlait de vie après la mort. Parce que j'étais comme, mais oui, mais c'est tout expliqué scientifiquement. Là, élimine tout le paranormal et les affaires d'esprit aussi. Là, dans le sens que...
Est-ce que c'est expliqué scientifiquement? Je ne sais pas. Mais il y a des hypothèses scientifiques qui ont été mentionnées. Et le cerveau ne se ferme pas comme une lumière.
Ouais.
Dans un studio, exemple, ou dans une pièce. Il se ferme...
Graduellement.
Graduellement, puis le dernier moment...
Mais c'est logique.
...où ton cerveau, il y a encore d'électricité, c'est là où tu rêves un peu.
Oui, c'est super
mémoire,
logique.
Ouais.
Et là, j'entends des réflexions.
Donc après, il y a fuck all, là.
Écoute, je le sais pas.
Soit dans le ici et maintenant.
Oui, c'est ça. C'est mieux de même, je pense. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont catégoriques. J'y crois pas. Moi, ça a toujours été quelque chose que je touchais là, avec prudence. Je le sais pas si j'y crois ou pas. Je le sais pas ce que je ressens. Je sais pas si je veux savoir. J'ai une grande curiosité, par exemple. Fait qu'il va assurément falloir reprendre cette discussion-là à un moment ou à un autre.
Tu sais que quand moi, j'étais jeune, on me parlait du paradis puis de l'enfer, là.
Mais oui.
Si tu étais une bonne personne,
paradis.
T'allais au paradis. Si tu étais une mauvaise personne, t'allais en enfer.
Mais oui.
Mais il n'y a rien qui déterminait à savoir si tu étais une bonne personne ou si tu étais une mauvaise personne.
Ouais.
Ça veut dire que dans ta journée, tu pouvais parfois être une bonne personne, mais tu pouvais parfois être aussi mais une mauvaise
péchés,
personne.
Les péchés et toutes ces affaires-là, là, on rentre dans la religion
seulement. C'est pas si loin que ça. Là.
Mais non, pas en tout. J'en ai entendu parler beaucoup du paradis et de l'enfer. Là.
Heureusement, je crois pas à ça. Fait que ça me permet de dire des niaiseries.
Tu crois pas à ça ou tu veux pas croire
non,
à ça?
Non, je crois pas à ça du tout.
Zéro pin
d'or? Non, moi je suis vraiment en plate là-dessus. Là. Quand, on,
fait quand
parle,
on est mort, on est mort, il n'y a plus personne.
C'est fini, c'est terminé.
Tu t'es jamais surpris à t'adresser à quelqu'un, mettons, que tu as aimé? Là, des fois, tu te surprends comme, mon Dieu, à regarder en haut. Là.
Oui, je le fais pour moi, mais je le fais pas pour la personne
pour
qui est
décédée. Pour tes propres croyances.
Je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. Il y a des gens qui étaient autour de moi il y a quelques années qui sont malheureusement décédés. Faut de temps en temps, je leur parle. Mais ça me fait du bien à moi. Je ne sais pas si les autres m'entendent ou si ça leur fait du bien que je leur parle.
Je te suis.
Ouais.
Hey, c'est fucké. En passant, cette discussion-là va se retrouver sur le VLVD.fm.
11h09, on revient.
Boulevard 102.1.